Voilà, j'espère que c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile pour vous de. Pour nous, c'est pas trop difficile, puisque au fond, c'est un petit peu notre. On a tellement l'habitude. On a tellement l'habitude, n'est-ce pas, de la grâce que ça nous est tellement familier. Vous vous rendez compte, depuis qu'on est bébé, qu'on baigne pratiquement dans un milieu connu, dans des paysages connus, qu'on redécrit à nouveau. Alors, vous n'avez pas de questions à poser, on peut continuer. Si vous avez des questions particulières à poser, n'hésitez pas, faites-le maintenant. Alors, je pense que je vois qu'on peut démarrer sur des bases nouvelles et continuer à approfondir un tout petit peu. Donc, nous comprenons bien que simplement, nous avons été introduits à l'intérieur nous n'avons jamais été introduits à l'intérieur de Dieu, puisque, j'allais dire, nous sommes en Dieu. Le seul fait que j'existe fait que je suis en Dieu. Donc, j'ai jamais eu à être introduit en Dieu. Vous comprenez ça? On a souvent une vision du péché qui est pas juste. On croit que par le péché originel, etc., ou péché personnel, eh ben, on peut sortir de Dieu. On peut pas sortir de Dieu. On continue d'exister. Dès lors que nous continuons d'exister, Dieu est en nous. Le jour où Dieu ne m'aime plus, le jour où Dieu ne pense plus à moi, je n'existe plus. Et Dieu continue à penser à moi et continue à m'aimer. C'est pour ça que j'existe. Mais quand vous aimez quelqu'un, vous êtes en lui. Il est en vous. Il est présent dans votre cœur. Mais quand Dieu pense à nous et qu'il nous aime, nous sommes tout à fait présents. Réellement présents, physiquement présents. Et métaphysiquement présent. Le Père ne nous a jamais quittés. Donc même le péché ne nous a pas séparés de Dieu. Il ne nous a jamais séparés du Père. Le mal ne nous a jamais séparés du Père. L'oubli ne nous a jamais séparés de Dieu. C'est quand même, il faut partir de là. C'est Luther. C'est avec le protestantisme qu'on pense que le péché nous a séparés de Dieu. Oui, dans le protestantisme, on pense que la petite activité mauvaise de l'homme, l'homme se croit assez puissant pour se séparer de Dieu. Mais non, l'homme n'est pas assez puissant pour se séparer de Dieu. C'est une bagatelle, l'homme. Jamais le cri de la fourmi n'a fait sourciller le rayonnement du soleil. Jamais. Et donc, péché, le mal, enfin, on voudrait croire que on est... Bon, Dieu m'aime, Dieu continue de m'aimer, je ne peux pas supprimer l'amour de Dieu. Hein. Je peux en supprimer le rayonnement, je peux en supprimer la fécondité, je peux faire en sorte que je ne devienne pas Dieu, ça d'accord. Hein. Que moi-même, je ne sois pas entièrement... Fils de Dieu, c'est d'accord, ça c'est possible, hein, à la rigueur, que mes actes ne soient pas divins, que ce soient des actes seulement humains, ou animaux, ou même diaboliques, ça. Mais ça ne fait pas en sorte que Dieu est toujours présent en moi. Dieu est toujours là, Dieu ne m'a jamais quitté, le Père est toujours là. Comme un soleil ardent, au centre de moi-même, au centre de mon... Hein, il suffit simplement d'ouvrir les yeux, Dieu est là, il m'aime, c'est tout. Jésus encore mieux. Hein. Voilà. Alors, bon sens, là, dans cette vérité de bon sens. C'est une vérité de bon sens, ça, c'est pas une vérité biblique. C'est une vérité de bon sens, mais la Bible dit la même chose. Mon amour te sera toujours fidèle. À partir de là, Jésus est comme une surabondance. C'est une surabondance, une multiplication d'amour, une surabondance. Vous voyez ? Donc quand les 5 pains et 3 poissons, vous savez, la multiplication des pains, par exemple, qui est un petit peu comme le geste de Jésus qui prophétise que c'est au fond que le geste sacerdotal, il reçoit les 5 pains et 3 poissons. Donc les 5 pains, c'est tout simplement l'homme dans ses 5 perfections, les 5 lieux où il est vivifié par le Père de l'intérieur, de l'intime de lui-même, dans l'amour, dans la vérité, dans la perfection de son existence, dans sa vie intérieure et dans tous ses mouvements. Les 5 modalités de la perfection humaine ne peuvent se vivre que si le Père et lui sont un. Les 5 modalités de l'acte. Alors, on apporte à Jésus les 5 pains, 3 poissons. Voilà ce que fait Jésus comme prêtre. Il reçoit simplement l'homme. Il nous reçoit là où on est un homme, c'est-à-dire là où on est en union avec le Père, c'est-à-dire là où on est nous-mêmes, malgré les apparences. Hein. Tout ça, c'était caché dans la petite gypsière, dans un petit sac de provisions, d'un petit garçon, au milieu de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'était bien caché, dans une multitude de gens. Il n'y avait que 5 pains et 3 poissons. Mais ce petit garçon a donné à Jésus ses 5 pains et ses 3 poissons. Il est passé de l'adoration naturelle, de la présence de Dieu, de l'union à Dieu, à, en fait, qui s'est livré à une adoration chrétienne. Et là, vous voyez bien, lorsqu'on commence à se tourner vers Jésus et à voir que Jésus aussi est là, le Père nous l'a donné. Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Père nous a donné son Fils. Alors, quand on livre notre unité à Dieu, notre union avec le Père, lorsqu'on découvre, on se laisse recevoir le don du Christ, de Jésus, et on se donne, nous, tout entier, on donne les 5 pains et les 3 poissons, par la foi, l'espérance, la charité. Alors, à ce moment-là, l'acte sacerdotal du Christ peut intervenir, et bien, il multiplie. Il multiplie, il multiplie, il multiplie, il multiplie, il multiplie. C'est distribué par le sacerdoce, les apôtres. Hein. C'est distribué à toute la création. Et il y a du reste, il y a du reste, il y a du reste. Il y a de la surabondance, de la surabondance, de la surabondance. Et il faut ramasser les miettes. Ça, c'est... C'est beau, hein, comme icône du sacerdoce, cette surabondance. L'amour de Dieu est total, il est présent, il irrigue toute notre vie. Le Père est là, ne nous a jamais quittés, mais Jésus surabonde d'amour qu'il n'y a que pour nous. D'ailleurs, se multiplie à partir de nous pour tous les frères, tous les êtres. Au centuple pour chacun. C'est une surabondance, ce n'est pas nécessaire. C'est gratis. Tu lui dis je t'aime, ta fiancée, qu'est-ce que tu veux, je suis désolé, mais bon, ben c'est bien, elle le sait. Parce que si tu ah, c'est la troisième fois que tu lui dis je t'aime, elle te dit ça va, tu me l'as déjà dit deux fois. Hein? En général, tiens, ça sent le roussi, c'est qu'il y a l'eau dans le gaz. Parce que quand dans l'amour on refuse la surabondance, c'est embêtant. Le prêtre à Jésus, c'est la surabondance de l'amour de Dieu. C'est une multiplication, une continuelle multiplication jusque dans l'éternité et à partir de l'éternité. C'est une multiplication, non pas à l'infini, mais une multiplication d'éternité. Voilà, ça c'est ça qu'il faut un petit peu saisir. Et c'est si on se livre au fond à Jésus, et que du coup Jésus à partir de nous, les 5 pains et 3 poissons, vous voyez bien que c'est les 5 pains et 3 poissons qui sont multipliés. Donc si je me livre à Jésus, hein, si j'adore Jésus, si je vois que Jésus est mon créateur et mon recréateur en ce moment, actuellement, dans cet instant maintenant, intérieurement et de l'intérieur de moi, il me crée et il me recrée. Alors à ce moment-là, il prend les 5 pains et 3 poissons, c'est-à-dire toute mon humanité, toutes mes perfections, le fait que j'existe, hein, l'essai, le fait que je suis rempli d'amour, bonhomme, le fait que je sois un être de lumière, verum, le fait que je sois un être tout intériorisé dans ce don, vitam, et le fait que du coup tout, en part, tous mes mouvements sont avec lui, les cinq pains. Alors à ce moment-là, ces cinq pains-là, c'est-à-dire moi, qu'il multiplie, c'est moi, porteur du Christ ressuscité d'entre les morts, assis à la droite du Père, qui est multiplié. C'est moi qui suis multiplié. Jésus se livre à mes frères par la médiation d'un instrument qui est moi. Voilà la vocation sacerdotale des fidèles qui nous est donnée par le baptême. Donc, quelle différence entre le baptême et le sacrement du sacerdoce? Sacrement de baptême, sacrement du sacerdoce. Vous voyez, je dis, mais alors, c'est pas la paix. Si! Mais ça y est, j'ai compris, je me sentais appelé au sacerdoce, hein. Tu te sentais appelé au sacerdoce. Ça y est, j'ai tout compris, maintenant, j'ai compris, c'est le sacerdoce du baptême, voilà. J'ai plus besoin d'aller au séminaire. Formidable. Hein? Quelle différence entre le sacerdoce du baptême, puis le sacerdoce royal, puis le sacerdoce sacramentel, puis le sacerdoce éternel. Puis le sacerdoce immaculé de la femme. Il y a tous ces types de sacerdoces qu'il faudrait quand même arriver à voir. Et vous sentez bien que, hein, il y a pas mal de... Il faut essayer de saisir ça petit à petit, hein, cette échelle de Jacob, cette échelle sacerdotale de Jacob, hein, qui fait que la surabondance s'approfondit de degré en degré, d'intensité en intensité, de plus en plus. Alors, c'est ça qu'il faut essayer petit à petit de voir, je crois. Bon, ben, ce que je viens de vous expliquer à l'instant, je crois que c'est le sacerdoce des fidèles, c'est le baptême. Vous voyez bien que le baptême donne la grâce. Le baptême fait que, justement, ces cinq pains, ces trois poissons, ben, sont vivifiés. La vie, c'est la multiplication. La vie, c'est que de l'intérieur, ça surabonde, cette grâce. C'est ça la grâce. L'adorateur qui est en moi devient comme présence de Jésus qui recrée tout, qui recrée continuellement dans l'éternité. Donc l'éternité implique la présence simultanée dans tous les instants de toute l'histoire de la création. Hein. Extraordinaire. Dès que j'adore Jésus et que je m'enfouis dans la grâce du baptême, je suis emporté avec Jésus dans l'éternité, laquelle irrigue tous les instants, les milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'instants qui ont composé la création du monde du début jusqu'à la fin. J'y suis avec lui, je peux assister à la création, et j'assiste à la création avec lui, j'assiste au retour du Christ, j'assiste à la récupération glorieuse, ça c'est la grâce du baptême qui me permet ça. Par la foi, l'espérance et la charité, mais par la foi, je peux voir ça avec lui, y assister. C'est le baptême qui fait ça. Sacerdoce des fidèles, parce qu'à ce moment-là, vous voyez bien, je suis entre Dieu et chaque instant de toute la création. C'est extraordinaire. Avec Jésus ressuscité, avec Jésus, avec le Messie, avec le Créateur, avec le recréateur de tout. Ça, c'est le baptême qui fait ça. Hein? Et donc c'est bien, je suis bien à la fois le lieu où Dieu et la création se rencontrent et le lieu où la création et Dieu se rencontrent. Donc c'est bien un sacerdoce de vivre du baptême. Bon, j'espère que vous suivez ça jusqu'à maintenant. Ça, c'est facile, hein. Donc, le baptême est lié à la grâce. Voilà, retenons ça pour résumer. Le baptême, c'est lié à la grâce. Le cinq pains et trois poissons. Cinq pains, celui qui adore. Le Christ, il est recréé entièrement par Jésus ressuscité. Jésus. Et les trois poissons, du coup, il peut faire des actes de foi, d'espérance et d'amour, qui sont d'ordre surnaturel, qui ne sont plus des actes humains, ce sont des actes divins. Ce sont des actes, on appelle ça des actes de vie théologale. C'est très au-dessus de tout ce que peut faire l'homme. ça, nous le savons bien. C'est la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante est liée au baptême. Le baptême, il faut le voir, en fonction de la grâce sanctifiante. Le sacerdoce comme sacrement. Ça, c'est sacerdoce des fidèles. Hein? Maintenant, le sacerdoce royal des fidèles a une relation avec le sacerdoce royal a vis-à-vis du sacerdoce des fidèles, la relation que le chêne a vis-à-vis du gland. C'est la même chose. C'est lié aussi au baptême, d'une certaine manière. C'est lié au baptême. Seulement, vous voyez bien que c'est statique au niveau sacerdotal, dans le baptême, et ça devient dynamique dans le sacerdoce royal. Le fait que j'ai été baptisé et que je suis le lieu de la rencontre de Dieu, du Père, du Christ ressuscité d'entre les morts et de toute la création, de tous les êtres, de tous les hommes, de tous les temps, de tous leurs actes, de toutes leurs défaillances, chacune. C'est moi, le lieu, mon corps, parce que mon corps a été incorporé dans le corps mort et ressuscité du Christ par le baptême. Ça, c'est le petit gland. Et bien, ce gland est sacerdotal. Pourquoi ? Parce que il est là pour croître, devenir un chêne. N'est-ce pas ? Sacerdoce royal, pour croître. Non seulement je suis le lieu, mais aussi, en même temps, je suis le gouvernement de tous ces êtres. Je suis placé à titre de gouvernement. Je suis roi de la création. Inséparé de Jésus, c'est Jésus qui fait ça en moi. Avec le Père, qui est bien le roi de la création, avec l'Esprit Saint. C'est sûr. Et donc il faut lier le baptême à la grâce sanctifiante, mais le sacerdoce, c'est lié à l'augmentation de la grâce. Ah, ça y est. Être chrétien, ce n'est pas d'être baptisé et de rester en état de grâce. C'est très bien, c'est très très bien. Je ne dis pas qu'il faut surtout tout faire pour ne pas rester en état de grâce. C'est pas ? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'est pas ça, être chrétien. Ça implique que il y ait sacerdoce des fidèles et le sacerdoce royal. Jésus nous a donné Marie pour comprendre ça. Elle est vierge, virginité, immaculation de grâce, voilà le baptême, mais elle est mère. Voilà pour sacerdoce royal. C'est la maternité divine qui nous explique ce que c'est que le sacerdoce royal. Maternité divine de Marie, mère du Christ, hein, et mère de tous les membres du corps mystique du Christ, et mère des prêtres, et mère de l'Eucharistie, et mère de toute grâce, hein, et matrice, hein, de gloire aussi. Et c'est ce qu'il faut voir, vous voyez, ce passage, justement, c'est pour ça que c'est intéressant, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, de voir que sans Marie, on ne peut pas voir ce que c'est, ce que ce sacerdoce. Donc, la grâce ne cesse d'augmenter. Ah, ça devient sacerdotal. Donc, si je suis un chrétien, que Jésus vit en moi complètement, que j'essaie d'être fidèle, que ça reste toujours la même chose, ça va, ça fait 7 ans, ça y est, j'ai réussi à rester en état de grâce. Ma sainteté n'a pas augmenté. C'est à ce moment-là, je peux dire, ouais, bon, que j'ai reçu les 5 talents, je les ai vite enfouis dans la terre, parce que j'ai eu peur. J'ai reçu mes talents, j'ai reçu la grâce, mais ça n'a pas prospéré, n'a pas multiplié. Et vous rappelez ce que Jésus a dit, hein? Il a dit, bon, retirez-lui même ce qu'il croit avoir. Ça veut dire que c'est pas ça. Vous n'avez pas donc répondu à votre vocation de baptiser. Rester en état de grâce, ce n'est pas répondre à sa vocation de baptisé. Ça, c'est très important, ça. Vous sentez bien qu'avant, je me rappelle dans le catéchisme avant le concile, on disait toujours, voilà, ce qui compte, c'est de rester en état de grâce, et surtout pas tomber en état de péché mortel. Hein. Ben ça, c'est pas catholique de dire ça. C'est janséniste. C'est du jansénisme, condamné par l'Église. C'est absolument pas ça. La vie chrétienne consiste à faire que cette grâce ne cesse d'augmenter. Tout le temps. Que la sainteté soit là. Et pour qu'elle augmente, il faut que j'immerge la grâce, qui est déjà une grâce étonnante, je viens de vous l'expliquer, hein, baptême. C'est Jésus, je suis présent à tous les temps, tous les lieux, tous les êtres. Et Jésus et moi, ensemble, éternellement et temporellement. Mais il faut que ça augmente. Et pour que ça augmente, il faut que je reçoive Marie chez moi. Il faut que je reçoive l'Immaculée chez moi. Il faut que je reçoive Marie dans Reine chez moi. À l'intérieur de moi. Et il faut que je la reçoive chez moi. Et que je vive cette grâce que moi je vis à sa manière, à elle, qui est une manière de plénitude absolue. Marie a reçu cette grâce. Elle était immaculée dans sa conception, voilà son baptême. Mais la grâce, qui était déjà plénitude de grâce, hein, dès le premier instant, elle n'a jamais cessé d'augmenter à chaque instant, tout le temps, tout le temps. Marie, c'est ça. Marie, c'est une grâce qui n'a jamais cessé de se multiplier, d'augmenter, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle devenait sainte de plus en plus, tout le temps, tout le temps. Et elle était déjà pleine de sainteté au départ. 9 mois avant sa naissance. Pleine de sainteté. Et sa sainteté n'a cessé d'augmenter. D'augmenter, d'augmenter. 5 000 multipliés. 5 000 la multiplication. 5 000. Ah oui, alors à ce moment-là, multiplication. Augmentation. Ça, c'est sacerdotal, c'est sacerdoce royal. Il faut que cette grâce augmente. Comment est-ce que je vais faire pour augmenter la grâce? Eh bien, il faut que je sois avec l'Immaculée. Il faut que je vive tout avec elle, par elle. Il faut que je fasse comme elle. Il faut que je la laisse faire à sa manière. Il faut que ce soit elle qui fasse tout à travers moi. Je m'efface, il n'y a plus qu'elle. Et c'est elle qui fait tout à travers moi. Et en moi. Je le fais comme elle, et à sa manière, à sa mesure à elle. Voilà ce que Jésus m'a donné. De manière que je peux dire aux démons qui sont là partout, je suis l'Immaculée Conception. C'est extraordinaire, je suis le haut-parleur de Marie, reine. Je suis son haut-parleur. Alors avec ma voix, je peux dire, avec mon cœur, avec mon âme, avec ma foi, je peux dire, je suis l'Immaculée Conception à toutes les ténèbres. À tous les doutes, à tous les mensonges, n'est-ce pas ? Je peux dire ça à toute la création, je peux dire ça à Dieu. Je suis le haut-parleur de l'Immaculée Conception, je suis le haut-parleur de l'Immaculée, je suis le haut-parleur de Marie. Ah voilà, sacerdoce, Vatican II. C'est génial Vatican II, hein, balèze quand même de dire ça. Oh, hein, vous, on vous, ne nous disait pas ça au catèche, en 1954, quand j'étais petit. Sacerdoce royal. Il a fallu attendre 1965, 4 exactement, pour entendre ça. Jamais aucun concile n'a autant parlé de Marie que ce concile-là. Aucun concile n'a parlé autant de Marie que celui-là. Aucun. Et c'est le premier concile qui parle du sacerdoce. Le premier. Bon, le concile de Trente en avait parlé. Mais pour dire, bon, quand tu reçois l'ordination, c'est licite dans ce cas-là, juridiction dans ce cas-là, tu as pouvoir dans ce cas-là, c'est extérieur, c'était point de vue, si tu veux, de la loi, quoi. Des conventions, des machins, mais est-ce que c'était intérieurement, réellement, intimement, vitalement, en pleine lumière ? Et il y a une relation entre Marie et le sacerdoce, et le prêtre éternel, Et cette relation est une relation de mariage. C'est une relation sponsable, voilà, d'époux et d'épouse. Et si on ne comprend pas le mariage entre l'homme et la femme, on ne peut rien comprendre au sacerdoce. C'est ce que dit ici, vous voyez, le texte qui est paru jeudi saint, dernier, un peu partout. Le sacerdoce participe à la sponsalité de Jésus-Christ. Titre. Paragraphe 13. Cette dimension sponsale du prêtre vis-à-vis de l'Église est signifiée par le rite de l'ordination, par la remise de l'anneau à l'évêque. C'est un mystère de mariage. Tout le temps, mariage, sponsalité, etc. Je ne pourrais pas vous lire tout. Et ce mariage implique donc l'unité des deux, cette unité avec Marie, reine. Le prêtre a autorité. Le prêtre éternel, il s'est assis à la droite du Père. Il partage l'autorité du Père. Il a autorité. Mais ce mariage avec le sacerdoce royal de Marie transforme la médiatrice en reine. Elle a toute autorité. Elle est transformée. C'est un mariage. Et dans tout mariage, si l'unité est totale, il y a une unité absolue entre les deux. Et ce n'est pas que Jésus prêtre disparaît, c'est pas ça. Mais c'est la femme qui manifeste l'énergie de l'homme. La femme porte en son sein l'énergie de l'homme pour y donner son fruit. Et c'est pour ça que c'est elle qu'on voit, c'est la reine. Et Jésus serait content. Parce que du coup, il y a une conception. Et cette conception, c'est la conception du sacerdoce chrétien. Dans l'Église de Jésus. Et qui permet une troisième conception. La conception de la Jérusalem céleste et éternelle. Hein? Cascade de conception. D'abord, l'Immaculée Conception. Première conception. Puis la nature humaine du Christ est conçue par la contemplation virginale de Marie en son fiat. Puis le sacerdoce est conçu par Jésus lorsque il procède après sa institution de l'Eucharistie et la communion à son corps eucharistique sacramentel à cette prière sacerdotale avec le Père. Où il se présente avec les apôtres pour être glorificateur. Cette prière avec le Père, où il demande la gloire, et le Père immédiatement le lui accorde, c'est la conception du sacerdoce. Conception. Conception. La conception dont je viens de vous parler, qui est cette fruit de l'unité sponsale, le mariage entre le grand prêtre éternel et puis Marie dans l'Assomption, dans cette unité totale entre les deux, il y a un fruit, c'est une autre conception, c'est la conception du sacerdoce éternel du Christ dans l'Église et qui permet donc la conception finale qui est celle de la Jérusalem céleste. Une cascade de conceptions pour rejoindre la fameuse conception, pour reproduire cinq fois la fameuse conception par l'amour. En Dieu, d'un verbe. Le verbe est conception divine. Et c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Mais ça, peut-être... Non, c'est facile à comprendre. Donc, comprenons bien ça. Donc, le baptême, il faut lier... le sacerdoce royal, non pas au baptême, mais à, parce que le baptême c'est la grâce sanctifiante, mais à la grâce en croissance. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ma grâce doit augmenter. Et pour qu'elle augmente, ma sainteté actuellement. Vous savez, vous ne pouvez pas faire en sorte que votre grâce, votre sainteté, comment dire, vous pouvez pas, c'est pas vous qui allez augmenter la sainteté, c'est l'Esprit Saint, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est votre coopération avec lui. Et puis vous pouvez pas être tout de suite à égalité de croissance, de sainteté, de gloire de Marie, évidemment. Hein. Mais néanmoins, grâce au don que Dieu nous fait, voici ta mère, au moment où il conçoit le sacerdoce en nous, eh bien, j'allais dire, il y a cette présence de plénitude de gloire sacerdotale de Marie-Reine en nous, n'est-ce pas ? Cet océan, et du coup, ma sainteté est en contact à l'intérieur, vous voyez, de cette plénitude de grâce de Marie. Alors Marie, du coup, engloutit autant qu'elle peut, vous voyez, comme une pompe à vélo sur un pneu dégonflé, pas encore complètement gonflé, aussi longtemps que elle pompe un maximum, elle plénitude de grâce, et ma grâce augmente. Vous voyez, parce que je suis en tension avec cette plénitude de sainteté de Marie, reine. Alors à ce moment-là, pendant ce temps-là, oui, parce que j'essaie de vivre ce qu'elle vit, hein, dans toutes les parties libres qui sont en moi encore, tu vois, que j'ai pu dégager, quoi, grâce à la souffrance, grâce à la croix, grâce aux contradictions, grâce aux humiliations. Elle peut remplir tout ça. S'il n'y a pas d'humiliation, pas de croix, impossible, hein, que ma grâce augmente. Hein. Et à ce moment-là, toutes ces humiliations, toutes ces où on m'écrase, etc., ben, je suis déçu, le doute, tout ce que vous voulez, enfin, elles se sont données, je m'offre comme ça, et du coup, Marie remplit tous ces vides nouveaux, toutes ces ouvertures. Abraham avait une tente à 1000 portes, ça veut dire qu'il était disponible de tous les côtés, percé, transpercé de partout. Jacob, qui n'en pouvait plus, vous comprenez, quand il arrive près d'Isaü, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il ferme toutes les portes de sa tente. Hein. Et du coup, c'est la bagarre avec l'ange. Israël. Mais Abraham, lui, il avait 1000 dalettes à sa tente, 1000 portes, disponibles de tous les côtés. Pourquoi il se laissait transpercer de partout ? Jésus demande le sacrifice d'Isaac, allez hop. Une vraie passoire. Un Saint-Sébastien extraordinaire. Et nous, c'est ça, vous voyez, on accepte d'être humilié, d'être instrument, de qui est plus que Marie, quoi. Que ce soit plus nous, ce soit plus notre sainteté, ce soit celle de Marie. Et pour ça, il faut s'offrir en victime. Le sacerdoce est victimal. C'est une victimale, on est victime d'amour. C'est un amour offert. C'est un sacerdoce d'amour, le sacerdoce chrétien. C'est pas un sacerdoce légal. C'est pas un sacerdoce de la loi. C'est pas un sacerdoce en disant, bon, tu as fait un péché, alors il faut que tu fasses ça, et du coup tu reçois le pardon de tes péchés, etc. Toute ta petite cuisine, alors tu as des coupages, etc. Bon, attends, c'est pas ça du tout. Ouais, ça, c'est l'Ancien Testament, ça. L'Ancien Testament, c'était comme ça. Et le péché, bon, on faisait tel type de sacrifice pour le péché, on offrait une victime. Jésus s'est offert lui-même en victime. Victime d'amour. Il est lui-même le prêtre et la victime. Et la victime n'est pas séparée du prêtre. Le sacerdoce, c'est moi-même qui m'offre en victime. À ce moment-là, si je vis ça avec Marie, elle remplit, vous comprenez, de sa plénitude, de sainteté, de sa manière à elle. Qui montre que Marie, pour en arriver là, a été broyée à chaque instant de sa vie. Broyée. En disant, moi j'aurais bien aimé la Sainte Vierge. Tu rigoles, oui. C'était un homme. C'est pour ça qu'il était silencieux. Marie, c'était une femme. C'est pour ça qu'elle était servante. Ah, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, qui l'enjeu, je dois aller en plus faire la profession, gagner la moitié du salaire de la famille, etc. Puis en plus, torturer les gosses, tout ça. C'est moi qui fais tout là-dedans, etc. Mais la femme, enfin, elle est heureuse d'être ta servante. Ouais, ma femme, elle prend toute la place dans la maison. C'est elle qui dit, faut faire ci, faire là, faire machin. Moi, j'ai rien à dire. Les gens arrivent, c'est elle qui cause. Mais enfin... C'est le silence de l'homme qui fait qu'il est un homme, c'est bien. C'est curieux la différence entre le silence de Joseph, l'esclavage de Marie, hein, extraordinaire. Aujourd'hui, dans nos ménages, c'est pas exactement comme ça. Hein. Oh là là, l'homme se sent homme quand il cause. Allez, c'est moi qui parle. Hein? C'est curieux, le renversement de l'amour. Et la femme, elle se sent femme quand elle est respectée. Voilà. Voilà, il m'aime puisqu'il coopère. Allez. Hein? Elle se sent femme quand elle n'est pas la servante. Elle est responsable avec son mari. Hein? Responsable avec son mari de la maison. Sa maîtresse de maison. C'est pas la servante, hein? Non, le sacerdoce, c'est qu'on est victime et serviteur. Et du coup, on peut grandir. On peut grandir. On peut enfin croître. On n'est pas mort. L'arbre mort ne grandit plus. Ça, c'est facile. C'est du gros bon sens, vous comprenez? Alors, la différence entre le baptême et le sacerdoce, vous voyez à quel point c'est fondamental. Il faut que cette grâce augmente. Et le sacerdoce, c'est lié à la croix de Jésus, croix glorieuse de Jésus. Le mystère de la croix glorieuse, c'est ça, 14 septembre. C'est que Jésus est offert en victime éternellement d'amour, brûlé par l'amour. Alors ça attire Marie. Ça l'attire, Assomption. 17 ans après. Donc elle a dû en baver pendant cette année. Pour pouvoir faire que ce soit parfaitement, n'est-ce pas, en affinité avec lui. Et cette unité d'amour jusque dans une seule chair glorieuse avec elle fait qu'elle est reine. Et du coup, il y a une conception qui se fait. Et cette conception, c'est la conception du sacerdoce éternel dans l'Église. Ce sacerdoce vient d'en haut. Il descend d'en haut. Il vient d'en haut. Il vient d'en haut. Il vient de l'éternité. Il vient de l'éternité glorieuse de la Très Sainte Trinité dans la communion de Jésus prêtre et de Marie médiatrice. Il vient d'en haut, tandis que, vous voyez bien, le sacerdoce d'Abraham, ah, il est venu d'en bas. Petit pèlerinage à Chêne de Mambrai. Trois anges qui viennent visiter Abraham auprès du Chêne de Mambrai. La bénédiction faite par Melchisédek à Abraham à Salem, après qu'il ait gagné la victoire, sur la terre que ça s'est fait. Le buisson ardent pour redonner la bénédiction du législateur sacerdotal à Moïse, qui lui-même d'ailleurs ne se sent pas prêtre. Prêtre, du coup, on désigne, on donne la bénédiction à Aaron. C'est sur la terre, ça s'est fait. C'est sacerdoce de la terre. C'est bien un sacerdoce divin, mais c'est sacerdoce de la terre. Tandis que le sacerdoce chrétien est un sacerdoce éternel. Il vient d'en haut. Ce n'est pas sacerdoce lévitique, ce n'est pas le sacerdoce. Non, c'est sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, pour comprendre que ce n'est pas un sacerdoce qui a son origine sur la terre, mais à son origine dans l'éternité du Christ ressuscité d'entre les morts, assis à la droite du Père, lequel a assumé toute la médiation, tout le sacerdoce royal de Marie dans son mystère de compassion. Oui.
Est-ce que le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce juif, dans cet testament peut être retiré? Est-ce qu'il est éternel ou...
Alors, justement, oui, d'accord, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Alors, on peut regarder, si vous voulez, effectivement, toute la progression, c'est ce qu'on aurait pu faire. Si on avait eu 8 jours de suite, on l'aurait fait. On a vu cette espèce de grand pèlerinage du sacerdoce divin sur la terre. Bon, mais grosso modo, Adam, mais Adam n'a pas exercé son sacerdoce. Deuxième temps, Noé. Mais ça a été récupéré par Melchisédek, qui est un être angélique, sans origine, sans fin, sans lieu, sans habitation, et pourtant avec une permission divine, il peut se manifester physiquement, pendant des heures, pendant des années, pendant des générations. Ainsi que le disent Écritures. Il communique ce sacerdoce universel, puisque Noé, c'est toutes les nations. Tous les peuples de la terre sortent de Noé, 70 nations, toute l'humanité. C'est un sacerdoce catholique. Catholique, ça veut dire l'universalité des hommes. Repris par Melchizedek, confié à Abraham. C'est vrai ? Melchizedek lui donne la bénédiction. Sacerdotal. C'est pour ça que le sacerdoce est lié à la paternité, parce que c'est le patriarche, hein, Abraham, c'est le père. Et Isaac, c'est le père de Jacob. Et Jacob, c'est le père des 12 tribus d'Israël. C'est les trois pères. La paternité est triple dans le sacerdoce. Paternité incréée de Dieu. Paternité dans le Fils bien-aimé du Père, qu'il nous envoie sur la terre. Paternité glorieuse du sacerdoce éternel du Christ qui enfante la vie de notre Sainte Trinité, à savoir l'Esprit Saint en personne. Triple paternité dans le sacerdoce. C'est pour ça qu'il y a Abraham, Isaac, Jacob, trois pères. Et c'est une bénédiction sacerdotale. C'est l'autorité, source de vie divine. Les torrents de vie, de foi, c'est-à-dire de lumière surnaturelle de la foi, vont sortir des trois patriarches. Ça, c'est sûr. Ensuite, Moïse reçoit la bénédiction de la nuit de l'Exode. Bénédiction de la baraka. Bénédiction sacerdotale. C'est pour ça qu'il peut recevoir. Donc, il peut voir en face sans mourir Dieu et communiquer les volontés de Dieu. Il faut aimer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà les trois premiers commandements. Il faut aimer son prochain dans ces sept dimensions. Il faut l'aimer, il faut accepter de le contempler tel qu'il est. Il faut vivre intérieurement de l'intimité avec lui. Il faut etc. Les sept commandements de Dieu vis-à-vis du prochain. Les dix commandements de Dieu. Il faut aimer Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Il faut aimer son prochain dans les sept dimensions dans lesquelles je peux l'aimer. Moïse transmet ça. Et il communique le sacerdoce à Aaron, de par Dieu. Et Aaron va se voir communiquer cette fécondité, transmission de génération en génération du sacerdoce dans le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique va permettre que le pardon soit donné à Israël et à toutes les nations une fois par an à la fête de Sukkot. Nous avons vu ça l'année dernière. Le Yom Kippour, la fête du pardon. À la fête des tabernacles. Mais ce sacerdoce, c'est quand même un sacerdoce qui reste un sacerdoce efficace, divin, si vous voulez, mais c'est pour la réparation, la restauration du péché, c'est pour que le Messie puisse venir, c'est pour que l'homme et la création puissent exploser en dehors d'elle-même, dans la gloire de la très sainte Trinité. Il ne s'agit pas de restaurer la création pour elle-même, il s'agit de faire que ce soit cette fusion entre Dieu, très sainte Trinité, gloire, éternité, et puis toute la création qui se fasse, ça, il faut le Messie pour ça. Même s'il n'y avait pas eu de péché, il l'aurait fallu. Il aurait fallu un sacerdoce éternel d'amour. Et c'est pour ça que quand Marie arrive, je crois qu'il faut voir comme ça, le septième temps, si je puis dire, de ce pèlerinage du sacerdoce divin sur la terre jusqu'au Messie. Quand Marie arrive avec le petit enfant dans le temple de Jérusalem, la maison du Père, avant qu'elle ne l'offre en holocauste d'amour, la victime, son petit enfant, c'est la victime d'amour, elle le sait très bien, avant qu'elle ne l'offre, le dernier prêtre, le dernier nasci d'Israël, Siméon, se précipite sur elle, porté par l'Esprit Saint. Le sacerdoce lévitique en Siméon, voilà le dernier moment, vient récapituler toutes les activités sacerdotales de tous les temps, naturels et surnaturels, jusqu'à ce jour. Et il vient expirer, et il le dit lui-même, « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Le sacerdoce lévitique, le sacerdoce de l'Ancien Testament, donc c'est la question que tu posais, vient expirer dans le cœur de Marie. Et Siméon le dit, mon sacerdoce vient expirer dans ton cœur sera transpercé par un glaive. Et il désigne Jésus comme le prêtre éternel, comme Abraham l'avait fait devant Melchisédek, qui s'était prosterné devant Melchisédek, pour montrer que tout sacerdoce qui commençait avec lui, d'Israël, devait se prosterner et expirer dans sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est ce que fait Siméon. Il vient, poussé par l'Esprit Saint, et tout sacerdoce lévitique en lui, comme un espèce d'entonnoir, vient expirer, vient arroser ou faire germer, je ne sais pas comment ça dit, vient dans le cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie, le cœur blessé de Marie, le cœur crucifié de Marie, qui vit déjà de cet holocauste d'amour victimal de Jésus, pour que Jésus soit signe de contradiction, pour que Jésus soit offert comme holocauste et victime d'amour dans la maison du Père, dans la demeure du Père. Et à ce moment-là, il y a la présentation de Jésus, sa fameuse présentation de Jésus, quatrième mystère. Joyeux. Joyeux pourquoi ? Parce que c'est une naissance. Le sacerdoce lévitique, et c'était la matrice, si vous voulez, douloureuse du sacerdoce de notre terre. Sacerdoce de grâce, hein. Et en Marie, il trouve son océan, il trouve sa demeure, il trouve son sein, il trouve son repos, ce sacerdoce à présent. Et il enfante enfin le sacerdoce chrétien, Jésus comme prêtre. Jésus reconnu comme prêtre prophétiquement. Mais en tout cas, le sacerdoce lévitique vient expirer dans le cœur de Marie pour que Marie puisse donner naissance à cette victimation d'amour de Jésus, ce retour vers le Père. Et c'est ce retour vers le Père qui va permettre au Christ qui était envoyé, donc médiateur, de devenir prêtre. Parce que l'aller et le retour dans un seul acte, c'est ça le sacerdoce, nous l'avons déjà vu. Donc, le sacerdoce du Christ commence là où le sacerdoce lévitique vient expirer. Si vous voulez en avoir la certitude, vous lisez l'épître aux Hébreux. Ceci est révélé. Donc le sacerdoce lévitique n'a plus lieu d'exister. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu n'a pas voulu. Et depuis, hein, en l'an 70, hein, vous êtes au courant que le sacrifice n'est plus possible puisque le temple de Jérusalem a été totalement détruit. Hein, le temple n'a pas été détruit à la présentation de Jésus au temple. Il a été détruit quand Jésus est déjà au ciel et au moment où Marie le rejoint. Oui ou non ? C'est à ce moment-là que le sacerdoce lévitique ne peut plus agir. Il ne peut plus même y avoir vestige de son temple. Mais le sacerdoce avait déjà été interrompu depuis très longtemps, puisque moi j'ai entendu dire qu'il a été interrompu justement en l'an 30. Hein. Ils n'ont pas continué à faire le sacrifice de Soukhot après l'an 30. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai entendu ça dans une conférence du père de Pudillon. Mais
dans le Saint des Saints.
Justement, le fameux présentation dans le Saint des Saints n'a plus eu lieu. Donc pas en 40 ans, il n'y a rien eu du tout, mais il y avait encore le temple. Ils avaient encore la possibilité de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Curieux, ça. 40 ans encore, tiens. Et le temple a été totalement détruit en l'an 70. Bah, remarque bien que c'est peut-être ce serait une petite raison de croire à quelle année Marie est devenue avec Jésus prêtre, éternel, assis à la droite du Père, celle qui conçoit le nouveau sacerdoce. Hein. 70, c'est beau ça. En fait, ça me paraît tout à fait logique de dire ça, en tout cas. Non, je vois que vous ne comprenez pas ce que je dis. Si, vous comprenez. C'est pourquoi je vous lis ce que dit ici le Saint-Père, enfin pas le Saint-Père, mais le document de Rome sur le sacrement et la vie des prêtres de jeudi saint dernier. Le prêtre a été, pour ainsi dire, conçu lors de la longue prière où le Seigneur Jésus a parlé au Père de ses apôtres, et sans aucun doute de tous ceux qui participeraient de sa mission au cours des siècles. Cette prière même de Jésus, tendue vers le sacrifice sacerdotal du Golgotha, doit nous montrer donc comment notre sacerdoce doit être profondément, j'allais dire premièrement à un autre endroit, et substantiellement à un autre endroit, lié à la prière. Le sacerdoce est un sacerdoce contemplatif. Enraciné dans la prière. C'est pas un sacerdoce extérieur. Notre sacerdoce est un sacerdoce tout intérieur. C'est un sacerdoce contemplatif. Il a été conçu par Jésus dans la prière sacerdotale, chapitre 17, versets 15 à 20. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Glorifier. C'est là que vous allez voir glorifier, 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 glorifier. Quand Jésus conçoit le sacerdoce de l'Église, conception. Attention, pour que le sacerdoce puisse commencer à agir, il faut qu'il soit adulte. Donc ici, conception. Naissance, je vous rappelle, naissance, c'est à la croix. Oui. Première manifestation, la Pentecôte. Et plénitude de manifestation, en l'an 70. L'Apocalypse est venu après. Explicitation de ce sacerdoce intérieur, Apocalypse, en 90. Et glorifier, ça veut dire quoi? Glorifier, ça veut dire quand le Dieu se glorifie lui-même, ça veut dire qu'il manifeste qu'il est Dieu. Manifester Dieu, c'est ça, glorifier. Donc, quand Dieu manifeste qu'il est Dieu, c'est le Verbe. À qui il manifeste qu'il est Dieu? À lui-même, avant la création, éternellement. Quand Dieu manifeste intérieurement qu'il est Dieu, « Ah, je suis Dieu !»« Ah, je suis Dieu !» Il y a deux, n'est-ce pas? Je et Dieu. Et bien, le « je suis Dieu », c'est le Verbe. Verbe. Non, vous ne saisissez pas ça? Manifester. Quand Dieu se manifeste à lui-même qu'il est Dieu, c'est manifester. Donc et c'est Dieu! C'est le Verbe. Et le Verbe, lui, manifeste à Dieu qu'il est Dieu. Le Fils manifeste au Père qu'il est Dieu, lui aussi. Et cette double manifestation, glorifier, c'est manifester que tu es personnellement, intégralement, éternellement Dieu. Manifester. Manifester Dieu, avec tout ce que ça implique de manifester Dieu. C'est une manifestation, attention, pas extérieure, c'est une manifestation tout intérieure, substantielle, éternelle. Personnel. Et cette double manifestation est si étonnante qu'il n'y a qu'une seule manifestation. C'est que Dieu est amour. C'est l'Esprit Saint. Et que l'amour est victorieux de toutes les divisions en Dieu, il y a un seul Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est l'Esprit Saint. Et la gloire, c'est ça. C'est de produire cette disparition. Je veux dire, dans l'amour, dans un seul Dieu, l'Esprit Saint. Dieu est amour. La gloire, c'est de produire l'Esprit Saint, en qui tout disparaît, sans supprimer la manifestation de Dieu. Justement, c'est ça, c'est la Trinité. Eh bien, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, puisque tu lui as donné autorité sur toute chair. Ah, la chair intervient cette fois-ci. Afin qu'à tous ceux que tu lui as donnés, il donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. C'est Jésus. Et Jésus demande que quand il va glorifier et manifester à travers son propre humanité, sa propre humanité, quand il va être source de l'Esprit Saint, source de cette unité du Père et du Fils dans l'unique amour de l'Esprit Saint, lui, dans son cœur physique et dans son âme humaine d'homme, il va être source de gloire. Il demande d'être source de gloire comme Dieu est source de gloire, c'est-à-dire lui est source de gloire avant la création du monde. Pour que tous ceux que le Père lui a donnés, Dieu n'a quitté aucun homme. Dans son amour et dans sa présence physique et paternelle et amoureuse, il n'a quitté aucun homme. Pour que tout ce que toi, Père, tu m'as donné, eh bien, je puisse leur donner la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existât. Prière sacerdotale. Vous voyez bien que la prière sacerdotale, Jésus comme prêtre, c'est la prière du Fils bien-aimé du Père, source avec lui de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la prière du type qui va faire un petit sacrifice, allez, maintenant, absolutio, etc. Ce n'est pas tout à fait ça. Ça, c'est des signes derrière lesquels se cache le sacerdoce éternel. Oui, il y a une triple sponsalité dans le sacerdoce, c'est pour ça. La sponsalité de la création trinitaire, il y a la sponsalité donc, de la médiatrice avec le Christ éternel, prêtre éternel, et puis la sponsalité entre toute l'Église et cette présence sacerdotale qui s'unissent entre eux dans la charité fraternelle. Il y a une triple trinité. Et c'est l'unification de ces trois trinités sponsales qui est le fruit du sacerdoce.
L'union de ces, qu'est-ce que vous avez dit? L'union de ces trois.
C'est l'unité de ces trois trinités sponsales, de ces trois sponsalités trinitaires. C'est l'unification en une seule amour qui est le fruit du sacerdoce, comme sacrement. Puisque vous savez bien, donc le sacrement, nous avons vu la res, ce matin, et ça, c'est le fruit. Dans un sacrement, il faut toujours distinguer la matière, la forme, la réalité, et le fruit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils savent à présent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Ah, voilà, le prêtre donne l'enseignement. Ah, aussi, ça c'est beau ça. Le prêtre vit. Il s'est offert en victime d'amour et il vit tout ce que le prêtre éternel vit dans la mesure de l'amour qu'il a pour Marie, médiatrice de gloire. Ah, dans cette mesure-là. Voilà ce que, dans la mesure dans laquelle ce prêtre vit ça. Et le prêtre, s'il vit ça, à ce moment-là, il peut enseigner. Les trois charges, les trois ministères du prêtre dans le monde, Munus Docendi, les trois munera, c'est-à-dire les trois charges, les trois responsabilités du prêtre, Munus Docendi, l'enseignement, donc par rapport au sacerdoce royal,
votre sacerdoce des fidèles ne va augmenter que si vous recevez la fécondation, hein, la conception du sacerdoce sacramentel, à travers laquelle le sacerdoce éternel du Christ communique à vous en Marie. N'est-ce pas? À ce moment-là, votre grâce peut augmenter. Comme ça. Entends bien. N'est-ce pas? À ce moment-là, en écoutant l'enseignement d'un prêtre, et en découvrant à travers l'enseignement de ce prêtre, comme Marie l'aurait écouté, et comme elle l'écoute par la médiation du cœur sacerdotal du Christ qui est dans l'éternité. Donc on ne juge pas selon les apparences l'enseignement, on le prend comme l'enseignement, il est immaculisé justement par cette présence sacerdotale, royale, immaculation. Parce que si tu fais des péchés d'une ignominie invraisemblable, l'immaculé est tellement immaculé, tchoup, la lessive est immédiate. Plus d'erreur, c'est extraordinaire avec l'immaculé. Mais je reçois l'enseignement du prêtre de l'Église par la médiation du sacerdoce. Le prêtre est chargé d'enseigner. Quand il fait un sermon, l'Esprit-Saint est toujours envoyé. Toujours. Quoi que ce soit que dise le prêtre lorsqu'il exerce son homélie à la messe, quoi qu'il dise, même s'il dit une erreur, l'Esprit-Saint est envoyé. Parce que c'est l'Esprit-Saint qui est envoyé dans l'exercice sacerdotal à travers un caractère instrumental. Parce que si vous vous attachez aux erreurs qu'il dit, par exemple, vous vous attachez au caractère instrumental du prêtre. Vous ne regardez pas l'Esprit-Saint qui glisse sur ce toboggan-là. Alors, ce qu'il faut que vous receviez, c'est l'Esprit-Saint qui est en train de glisser du toboggan. Là. Ah! Et si vous dites, mais il a dit des bêtises, et puis il louchait, il zozotait. J'ai rien entendu, en plus, je deviens sourde. Il faut recevoir l'Esprit-Saint pendant qu'il est en train de parler. J'ai rien compris. Mais tu reçois l'Esprit-Saint qui t'enseigne à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on est bête. Munus docendi. Munus gubernandi. Munus sanctificati. Alors, trois fonctions à l'intérieur desquelles je peux être fécondé trinitairement dans l'unification des trois spiritualités trinitaires, n'est-ce pas, en question. Alors, voyez bien, j'ai manifesté ton verset 7 et 8. Les paroles que tu m'as données, je les leur ai données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Les apôtres, ils parlent. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce que les apôtres, c'est ceux qui vont recevoir la plénitude, qui ont déjà reçu la plénitude du sacerdoce. Hein. Il vient de leur donner, faites ceci en mémoire de moi, la plénitude du sacerdoce, concile de Trente. Ils sont déjà ordonnés sacerdoce en plénitude. Ils sont déjà ordonnés évêques. Là, il n'y a même pas une demi-heure. Parce qu'ils sont à toi. Car tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié. Je suis glorifié en eux. Ça, c'est génial. Avant que le Christ ne monte sur la croix. Avant que Christ ne monte sur le trône de sa résurrection, avant que Christ ne monte sur le trône du Père pour régner comme Christ éternel, il est déjà présent comme Christ, Verbe éternel, ressuscité, et présent à la droite du Père dans ses apôtres avant que ça ne se réalise, et dire, si je puis dire, combien de temps plus tard, entre, je ne sais plus, 47 jours plus tard, 43 jours plus tard. 44 jours plus tard. Extraordinaire, ça. Glorifié en eux. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Pour eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde dans ton nom ceux que tu m'as donnés.
Vous voyez, ils sont déjà pères. Ils sont déjà la présence de la paternité de Dieu.
Afin qu'ils ne fassent qu'un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les conservais dans ton nom et j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et pas un d'eux ne s'est perdu hormis le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant je vais à toi et je te fais cette prière pendant que je suis dans le monde, afin qu'ils aient en eux la plénitude de ma joie. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne vous demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Sanctifie-les. La prière de la sanctification. Devenir pur. La sainteté implique la pureté limpide de la vérité, mais vécue dans un amour tel que cette pureté surabonde, déborde. C'est la sanctification, ça. Vous êtes saints quand votre amour est tellement pur qu'il se communique dans des cœurs qui n'aiment pas. C'est ça la sainteté. Est tellement pur, c'est en même temps la pureté et la surabondance. Il faut les deux pour qu'il y ait la sainteté. Alors à ce moment-là, comme ça, le prêtre a le mono sanctificandi. Comment est-ce que le prêtre peut sanctifier? Si vous voyez le prêtre au moment où il se présente à vous comme prêtre, et c'est vous, vous pouvez faire en sorte qu'il se présente à vous comme prêtre. Si vous dire, ah, salut, Anatole, c'est bon? Super, alors des copains, nous, hein. C'est pas comme certains curés, là, faut leur dire vous, machin, truc. Attends, au moins, on est copains, moi, j'ai commencé à y croire avec toi, tu parles. Si tu lui dis, mon père, bonjour mon père, non, appelez-moi Anatole, non, je peux pas, vraiment, je peux pas, mon père, excusez-moi, je suis un peu idiote, mais je suis un peu stupide, mais mon père. Ah, mon père, à ce moment-là, vous adressez pas à l'instrument, vous ne vous adressez pas au toboggan. Qui est rouillé d'ailleurs, et puis il y a plein de trucs. Pas du tout envie de glisser trop dessus, parce que c'est rouillé, vous allez vous salir les fesses alors. Donc faites pas attention à l'instrument, vous ne cherchez pas mon père. Ça met une distance, parce qu'il ne faut pas trop glisser sur un toboggan rouillé. Hein. Ben, c'est vrai. Et puis c'est quand c'est en métal en plus, et puis si en plus il y a des beurres qui ont fait des coups de alors ça déchire les fesses, c'est pénible. C'est pas très agréable. Enfin bref, donc tu regardes pas le toboggan, je veux dire, tu regardes pas l'instrument, tu regardes le Père. Tu regardes le Père. Jésus est mon Père puisqu'il me fait vivre, il me donne la vie. Et à travers ça, lui-même, il reçoit, il est le Fils, il reçoit, il fait qu'il est Dieu parce qu'il manifeste le Père, éternellement. Et donc le Père aussi est là, le Père du Fils. Alors c'est le Père, c'est lui qui est là. À ce moment-là, ça y est, même si le curé n'est pas au courant, je veux dire, hop, ça y est, vous avez la reste du sacrement qui est là, uniquement à cause de vous. Marie est mère du sacerdoce. Sacerdoce royal qui est capable d'actuer sacerdoce ministériel. Balèze, hein? Mais sacerdoce ministériel est capable d'actuer son propre sacerdoce aussi, hein? Parce qu'un prêtre, il est censé être appelé lui aussi à être un saint. Et donc, en actuant les sacrements, en présence d'un prêtre, hein, sacramentellement présent à vous, en actuant tous les sacrements, vous êtes sanctifié. Et donc votre grâce augmente. À chaque fois que vous recevez par exemple l'Eucharistie, augmentation de la grâce. À chaque fois que vous activez le sacrement de baptême en vous, en disant « je veux croire beaucoup », avec une charité, un amour de toutes vos forces, augmentation de la grâce, c'est le sacrement de baptême. Vous recevez l'absolution, augmentation de la grâce. Vous aviez la grâce sanctifiante gros comme ça. Gros comme ça, c'est quand même plus gros que deux verres. Gros comme ça, un espèce de bac gros comme une baignoire. C'est pas mal. J'ai quand même plus de sainteté que l'imbécile à côté de moi, regardez. Beaucoup moins. Moi, j'ai 100 tubes de ça. C'est pas mal, c'est bien. Très bien, on est très contents. Voilà. Alors, mets-toi dans la baignoire, que la baignoire déborde, s'il te plaît. C'est ça, la sainteté, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, vite, le Seigneur, whoop, construit une baignoire pour récupérer l'eau. Centuplé d'un seul coup, et tchouf, ça devient déjà, ouf, voilà, c'est une piscine. La fois suivante, c'est un petit lac. La fois suivante, c'est une mer de Galilée. La fois suivante, c'est une Méditerranée. La fois suivante, c'est un océan. La fois suivante, comprenez ? À chaque fois, ça augmente. Au centuple, hein ? À chaque fois ! À chaque fois ! Et je peux augmenter la grâce quand je veux. Dans une heure, je peux l'augmenter des milliers de fois. Donc, il faut apprendre à augmenter la grâce. Vous comprenez? À distance, j'ai pas besoin d'avoir un prêtre là devant moi, sous mes yeux. Je peux prier pour le pape, enfin, oui ou non? Je peux prier pour tous les prêtres, me mettre dans le cœur de chaque prêtre, puisqu'il n'a pas le temps de prier, tous ces prêtres tellement chargés des pauvres, de ceux qui viennent frapper à leur porte. Alors, je rentre mystiquement à l'intérieur de tous ces prêtres, de ce prêtre que je connais, du pape, enfin, tout ce que vous voulez. Je rentre à l'intérieur et je prie à sa place, je m'offre en victime à sa place, je fais pénitence à sa place. Et à ce moment-là, whoop ! Hey ! Vous voyez, c'est génial. Alors, sanctification, le prêtre est source de sanctification, source d'augmentation de la grâce par les sacrements et par sa seule présence. Et par la relation, donc, quand vous mettez en relation sponsale avec lui, ça y est. Attention, sponsale avec son sacerdoce, donc avec le Christ éternel en lui, lequel jubile dans la gloire océanique. Vous voulez de la royauté de Marie. Sanctifiez-les dans la vérité. La vérité, je suis la vérité. Hein, Jésus a dit. Sanctifiez-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Voyez bien. La parole, c'est ton logos, hein, donc ton verbe est vérité. Hein. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, par leur prédication, croiront en moi, pour que tous soient un comme nous, comme vous, mon Père, comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi, pour que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous a donné la gloire. On est source du Saint-Esprit au même titre que le Père, avec le Fils, est source du Saint-Esprit. Source de Dieu. C'est extraordinaire. Bon, que je savais, si tu veux, que Dieu est source de moi, bon, ça, hein, hein, ça passe. Hein. C'est pour ça, Bergson, hein, il est furieux de ça. Hein. Tu dis quoi? Non, faut pas exagérer, là. Que l'homme... Que l'incréé soit source du créé, d'accord. Mais ce christianisme, j'ai du mal, parce que le créé, à partir du moment où il est admis dans l'éternité, serait source de l'incréé. Non, personne dit non. Ouais, ça, pour un juif, c'est un scandale. Personne dit ça. Et de religion juive, hein, pratiquant de la synagogue. Pour un juif, c'est un scandale, ça. Le sacerdoce lévitique, oui. Voilà. Ça, j'admets.
mais le sacerdoce éternel qui vient d'en haut, qui fait que je suis source de la personne divine elle-même. Source de gloire. C'est vraiment étonnant, ça. Pas tout seul. Mais pas tout seul.
Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait qu'on est source du Saint-Esprit pour le monde? Pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Ah, c'est balèze, ça. C'est pour ça. Je ne peux pas aimer... Si je ne vis pas réellement, de cette grâce que Dieu me fait, que je sois dans l'éternité, dès maintenant, source de gloire, je ne peux pas aimer mon prochain. Donc si je ne suis pas contemplatif, ce n'est pas la peine d'essayer. Si je ne fais pas oraison, ce n'est pas la peine d'essayer. Si je ne suis pas tout intérieur, je ne peux pas essayer. À ce moment-là, je peux m'engager dans l'amour vis-à-vis du prochain. Ça oui, à ce près, je peux. Vous avez remarqué qu'on peut pas, on n'arrive pas à aimer ses ennemis. Vous n'avez jamais, au bout de 40 ans d'essai, vous n'avez plus remarqué que vous ne pouvez pas. Mais si vous vivez de la gloire, à ce moment-là, c'est plus un ennemi. Parce que Dieu est tout amour, toute victoire, de l'amour sur tout, sur tout, sur tout. Donc il n'y a plus d'inimitié. Afin que tous soient un comme nous. Nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde sache, connaisse, contemple que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme toi, tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois moi aussi en eux. Père juste, ils sont source de la justice de Dieu, monos gubernandi, en obéissant à un prêtre, j'actue. Le sacerdoce éternel du Christ dans tous les temps et dans toute la création, quand j'obéis à un prêtre. Mais ce qu'il me demande est absurde. C'est pas absurde. C'est pas absurde, la sainteté. Pas du tout. Et quand j'obéis à mon prochain qui est baptisé, parce que je reconnais en lui la présence divine, oui, par exemple, dans le mariage, j'obéis à mon conjoint parce qu'il y a la présence, j'allais dire, du Christ comme entre nous. Et donc, j'obéis. C'est sacerdotal, ça. Obéissance. Munus gubernandi. Je dois obéir. C'est le pasteur. C'est le prêtre. Et donc, c'est normal que ce soit, à l'intérieur de la paroisse, lui qui commande. C'est pas la bonne femme qui commande. Hélas. C'est pas la bonne femme qui commande dans la paroisse. En disant, ouais, c'est moi qui fais les catéchismes, le curé est en toi, je l'ai dans la poche et il s'écrase devant moi alors. Non, non. Ça, c'est diabolique, ça.
Il y en a qui ne veulent pas, des amis. Ils ne veulent pas
qu'on... Oui, non, se disant. Non, un prêtre, il faut lui... Non, moi non plus. Alors, le Christ veut qu'on soit soumis aux prêtres, si vous voulez. Mais donc, tout ce qu'on peut aider pour leur complémentarité, c'est de prier à l'intérieur de leur cœur, à leur place, pour eux, prier pour eux. Ça, oui. À ce moment-là, vous verrez que on leur obéit. Non, non, c'est pas à nous de leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils ont eux-mêmes à obéir à leur évêque, ils ont eux-mêmes à obéir à leur supérieur, ils ont eux-mêmes à obéir au pape, croyez-le bien. Ils ne sont pas exempts non plus d'obéissance, hein. Ils doivent vivre eux aussi du sacerdoce.
Ils doivent obéir aussi à l'Esprit Saint, ils doivent aussi obéir au Christ. Tous nous devons obéir. Mais quand on est envoyé par le Christ et par l'Église, je suis désolé, on doit obéir à celui que Christ nous a envoyé comme prêtre. Ah oui, refuse le baptême à mon enfant, etc. Ben oui, ben je lui obéis. Ben je peux voir un autre prêtre, remarquez. Hein, ça, personne ne m'empêche d'aller voir un autre prêtre que je connais, etc. Pour que mon enfant soit baptisé dans la paroisse de ma sœur, par exemple. Ça, ça fait, ça ne nous empêche pas d'être intelligents, s'il vous plaît. Mais n'empêche que d'obéir à un prêtre, faire un acte d'obéissance à un prêtre, je vous assure que c'est juteux du point de vue de la gloire. C'est peut-être pas juteux du point de vue de l'efficacité, mais c'est vrai qu'à la fin des temps, on voudrait que tout soit efficace. Parce qu'on est dans une société mécanique, si vous voulez, industrielle, consommation, tout ça, rapidité, TGV, tout. Alors on voudrait que ce soit efficace. Mais ça, la rapidité du TGV, ça n'a rien à voir avec Dieu, avec la vie spirituelle, avec la gloire. Quelquefois, ce n'est pas efficace du tout. Mais Dieu est glorifié. Et à ce moment-là, j'allais dire, c'est l'unité du genre humain qui se fait davantage. Hein. Et en tout cas, ma sainteté a augmenté d'une manière considérable. Et du coup, la gloire du Père aussi. Vous voyez ? Ça, c'est classique, hein. Donc il y a trois responsabilités pour le prêtre. Il est là, l'Église est là pour enseigner, communiquer la vérité infaillible du Christ, la doctrine du Christ, portée par l'Esprit Saint. Le prêtre est là pour être source de sanctification, donc d'augmentation de la grâce. Et le prêtre est là pour... être le berger, être le pasteur, être le père, être l'autorité.